Il est arrivé une nouvelle un peu surprenante dans les dernières heures, dans les derniers jours, concernant la possible décriminalisation de certaines drogues illicites. On parle ici de possession simple. Je dis que c'est surprenant parce que la recommandation vient des chefs de police du Canada. Pourquoi c'est surprenant? Parce que, Joe, tu l'as vu, en fait, tu as été à même de constater aussi qu'au fil des dernières années, ça a été recommandé et demandé par certains groupes de défense pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, puis c'était tout le temps refusé par les policiers. Ouais. Ils n'étaient pas d'accord.
Mais je t'avoue que je suis pas tant surpris de cette volte-face-là, dû au fait de tous les efforts qui sont mis par les policiers pour emmener des dossiers devant le tribunal. Parce que même si c'est pas tellement compliqué faire la preuve d'une possession simple, ils doivent tout de même faire ce travail-là. Et le travail qu'ils mettent à constituer ces enquêtes-là, ces dossiers-là, ils ne l'ont pas pour travailler sur d'autres dossiers qui pourraient être des dossiers de revente et de vente de stupéfiants.
Alors, ça, c'est vrai, par contre, il y a énormément d'efforts et de travail qui doit être fait de la part des policiers pour ces dossiers-là. Est-ce que c'est pour s'éviter du travail supplémentaire qu'ils ont fait cette demande-là ou qu'ils pensent que maintenant, on devrait se concentrer sur d'autres types de crimes? Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une maudite bonne nouvelle pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, parce que souvent, ce n'est pas de judiciariser ces personnes-là qui va les aider nécessairement. On va aller en jaser avec mon prochain invité. Il s'appelle Simon Vermette. Il est intervenant en toxicomanie pour la clinique SAPSA, mais c'est aussi un ex toxicomane lui-même qui a passé au travers de ce système-là. Il va pouvoir peut-être nous parler des conséquences que ça peut avoir pour une personne toxicomane d'être judiciarisée comme ça. Monsieur Vermette, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Vermette, on va commencer tout d'abord avec votre expérience personnelle pour que les gens comprennent bien d'où vous venez puis comment vous vous êtes rendu à la clinique SAPSA pour aider les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. C'est que vous êtes passé à travers cette épreuve-là aussi.
Oui, exactement. Faites faire une histoire courte, en fait, là, c'est ça. C'est que moi, bon, je suis quand même de faire un petit portrait rapide. Je suis issu d'une famille moyenne, là, de la classe moyenne, donc j'ai quand même été aussi encouragé dans plusieurs choses. Mais bon, par la banque, j'étais tout le temps quelqu'un de curieux. J'ai jamais fait toutes sortes d'expériences, dont l'expérience des drogues. Puis par la bande, là, bon, mes frères aussi ont fait les expériences, eux autres aussi, mais moi, en tout cas, j'ai fait partie de ceux qui sont restés dépendants. Fait que moi, j'ai quelques années là, d'actifs de dépendance. Je dirais à partir de l'âge de 14-15 ans, aller jusqu'à l'âge de 33 ans. Puis il y a eu une gradation. Je me suis rendu jusqu'à l'injection des opioïdes, entre autres, et puis la cocaïne. Puis, donc, en janvier 2012, suite à tout un long processus, là, j'avais déjà commencé à arrêter certaines substances étape par étape. Mais là, à la fin, en 2012, c'est là où j'ai arrêté là, pas mal tout, là, finalement. Là, j'ai commencé à cheminer, puis là, à m'en aller tranquillement vers les services d'entraide.
Et Monsieur Vermette, vous êtes passé à travers tous ces problèmes-là. Vu que c'était en fait en tant que consommateur, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les conséquences judiciaires qu'une personne toxicomane peut avoir si elle se fait prendre avec une possession simple, par exemple? Donc, uniquement pour sa consommation personnelle. Ce n'est pas du tout destiné à la revente, là. C'est une petite quantité personnelle. Présentement, avec la loi de mise et qui est en place en ce moment, qu'est-ce que c'est le processus exactement?
Ben en fait, c'est tous les désavantages qui viennent avec le fait d'avoir un casier judiciaire, dans le fond, parce que souvent, même si théoriquement, plusieurs employeurs, par exemple, tu sais, qui vont faire abstraction du casier judiciaire des personnes si ça n'a pas d'incidence dans leur domaine d'expertise. Ben, par exemple, c'est sûr que si on est reconnu coupable de fraude ou de vol, ben c'est sûr que travailler dans une banque, c'est un petit peu impensable. C'est sûr que si on est reconnu coupable d'abus sexuels, aller travailler dans une école, c'est impensable, mais c'est pas tout le temps nécessairement là respecté. Puis le simple fait là, d'avoir un casier judiciaire, ben c'est stigmatisant. Puis ça a un impact là, définitif sur l'estime puis la vision que la personne elle a d'elle-même aussi. Là. Fait que donc c'est outre le fait d'être judiciarisé, là, d'être stigmatisé là, par en fait, les conséquences légales d'avoir un casier judiciaire et tout le côté aussi, stigmatisation puis la vision de soi.
Puis il y a des gens qui peut-être ont de la difficulté à comprendre à quel point ça peut être grave, une dépendance comme ça aux drogues, vont regarder ce portrait-là puis ils vont dire, il me semble que le fait d'être judiciarisé, ça devrait être une motivation assez grande pour lâcher ça, la drogue. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
C'est de méconnaître ce que c'est que la dépendance. La dépendance, c'est pas, on est loin de la notion de choix. Là, on n'est plus, c'est pas la punition a très très peu d'impact. Puis de toute façon, souvent la judiciarisation va avoir un impact inverse. Même la personne va dire bon ben là maintenant que je suis judiciarisé, maintenant que je suis stigmatisé. Ben puis ça a été mon cas d'ailleurs. Moi, je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais moi mon premier casier judiciaire là, c'était pour quelque chose que je n'avais pas du tout fait. Je n'étais nullement coupable. J'étais mal accompagné par l'aide. Je veux pas rentrer dans les critiques. Mais c'est okay. Tout ça pour dire qu'on m'a suggéré de plaider coupable alors que je n'étais pas du tout coupable.
Okay.
C'était fallu pour impact. Moi j'ai dit ben maintenant tant qu'à avoir un casier judiciaire pour quelque chose que je trouve invalide, ben je vais en avoir un pour quelque chose que j'ai fait puis que j'assume
ben
exactement.
Oui. Okay.
C'est complètement contre-productif, ça envoie le signal inverse. Et puis souvent les gens pensent que le fait que ce soit illégal est incitatif. Maintenant, là, j'ai pas les données avec moi, mais on sait, les gens qui sont familiarisés en criminologie, ils savent que c'est beaucoup plus le risque d'être pris qui est dissuasif que la sévérité de la sentence, par exemple.
C'est ça.
Je vais vous donner l'exemple. Si vous risquez 100 ans de prison pour un acte, mais que vous êtes sûr de jamais vous faire prendre, vous allez poser l'acte quand même.
Ben oui.
Même si vous risquez 6 mois de prison, mais que vous êtes sûr à une chance sur deux d'être pris, ben là, vous allez être moins tenté de commettre l'acte. C'est un peu ça qui est avancé dans la recherche actuellement.
Il y a d'autres endroits dans le monde qui ont opté pour une approche comme celle-là, puis ça a démontré quand même un certain succès, là, même un assez bon succès. Pour vous, est-ce que vous pensez que la solution vient avec la décriminalisation ou plutôt la légalisation de ces drogues-là?
C'est une bonne question. Moi, c'est sûr que j'accueille favorablement la position des chefs de police du Canada là-dedans. Je suis vraiment content. C'est certainement pas dans la bonne direction, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sûr que moi, pour ma vision personnelle, c'est un pas d'une foulée complète. Là. C'est la moitié du chemin qui est franchi. Mais moi, je suis quand même très, très content là, quand même là, de d'où ce qu'on s'en va là, avec ça. Là.
Et en fait, pour que les gens comprennent bien, la décriminalisation en tant que telle, concrètement, la différence entre ça puis la légalisation sur le terrain, ça peut être quoi?
Ben, en fait, la décriminalisation, c'est comme on dit, là, c'est plus, comme vous l'avez très bien expliqué dans l'introduction, c'est que ça touche surtout les consommateurs, ça touche surtout le fait de posséder une petite quantité là, dans le but de consommer. Donc, c'est sûr que ça a une incidence de très, très positive. Excusez-moi, ce que je regarde là, pour ce qui est du consommateur, ben, là, c'est sûr que la décriminalisation, même si on n'est pas encore dans la légalisation, ça a une conséquence positive sur la vie des consommateurs, leur famille, puis évidemment pour les communautés là, dans lesquelles ces gens-là évoluent. Mais c'est aussi, bon, comme je l'ai dit, aussi moins de stigmatisation, moins de judiciarisation, mais c'est aussi moins de pression, moins de stress, moins de paranoïa.
Oui, c'est ça.
Je regarde, par exemple, qu'il y a moins de risques de surdose, qu'il y a moins de risques d'infection. Si je regarde, par exemple, qu'il y a un utilisateur de drogue par injection qui est plus calme parce qu'il n'y a pas de risque de se faire arrêter, d'être judiciarisé, pendant qu'il se prépare à s'injecter, ben ça lui amène à utiliser un dosage plus approprié. Si je fais un portrait, par exemple, des étapes d'une injection sécuritaire là, qui est respectée.
Ouais.
Bon, d'abord, quand on fait une injection sécuritaire, on parle d'identifier son site d'injection, de désinfecter son site d'injection. Ensuite de ça, une fois l'injection faite, c'est de prendre soin du site post-injection. Puis ensuite de ça, vient la disposition du matériel de manière sécuritaire pour ne pas laisser traîner. Quelqu'un qui n'est pas décriminalisé pour ça, ben il va être beaucoup plus calme, il va respecter les étapes, puis donc il va identifier mieux son site d'injection, il va se désinfecter, il va ramasser son site après s'être injecté, ça va être bien pour la communauté. Ensuite de ça, bon, si on regarde les impacts économiques que ça peut avoir, bon, là, vous l'avez souligné, c'est moins de frais judiciaires, moins de frais d'incarcération, moins de frais de santé, vous l'avez dit, hein, c'est ça, là, la sécurité publique aura de meilleures ressources là, pour aller vers les programmes plus graves, par exemple, la violence. Mais il y a aussi un impact aussi potentiel sur la violence dans le milieu et l'agressivité dans le milieu avec la décriminalisation. Moi, je pense que c'est un excellent pas qui est franchi là, en allant avec la décriminalisation. Puis, avec la légalisation, je pense que c'est plus total, mais bon, c'est pas le point aujourd'hui.
Non, c'est ça. Monsieur Vermette, je vais me mettre un petit peu dans la peau d'une toxicomane qui tente de s'en sortir, qui réussit éventuellement à s'en sortir et qui s'en sort malheureusement avec un casier judiciaire parce que j'ai été judiciarisée dans ma maladie puis dans ma toxicomanie. Est-ce que vous pensez que j'ai plus de misère à m'en sortir parce que j'ai un casier judiciaire ou de passer à autre chose ou de développer une vie que quelqu'un qui aurait été toxicomane et qui n'a pas de casier judiciaire?
Ben oui, définitivement, parce que comme je l'ai dit, puis ça va aussi avec toute l'information. C'est pas tout le monde qui sait, par exemple, que un casier judiciaire, par exemple, pour possession, il y a des employeurs qui vont s'en foutre. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais. Puis de toute façon, on ne sait pas non plus quel employeur est susceptible d'être ouvert d'esprit et l'autre moins. Donc là, c'est tout l'espoir qu'on peut avoir. Moi, j'étais un agronome avant de planter solidement. J'avais une belle carrière devant moi et tout ça. Puis ça a été pour moi là, la judiciarisation, ça a été un gros frein à mon estime personnelle puis à la perception que j'avais de moi puis dans l'espoir de reprendre ma carrière d'agronome. Moi, j'ai été chanceux. Bon, j'étais un militant. Je m'impliquais beaucoup même à l'époque où je consommais. Fait que j'étais connu dans mon milieu. J'avais de la reconnaissance. J'ai aussi des parents qui ont fini. Moi, mes parents sont partis à l'époque là, de mon enfance où ils étaient prohibitionnistes à l'os puis anti-drogue. Puis aujourd'hui, ils adhèrent à mes points de vue totalement.
Oui.
Là.
Ah oui?
Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai été chanceux. J'ai des parents qui ont été chercher de l'information, qui se sont renseignés, qui ont passé outre leurs préjugés aussi, là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que si minimalement, au moins, la société, la communauté contribue à accueillir ces gens-là, à moins justement les stigmatiser par le biais de la judiciarisation, ben là, déjà, quand la personne désire se réinsérer, ben, elle est moins réactionnaire, elle est moins frustrée contre le système, puis puis elle a plus d'estime d'elle-même aussi. Moi, je pense qu'on ne peut être que gagnant là, avec ça.
Dites-moi, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'on devrait quand même garder un régime de sanctions, par exemple des amendes ou autre type de sanctions pour les gens qui sont trouvés en possession simple de stupéfiants, ou on devrait complètement abolir ça? Parce que il y en a qui vont se dire, bon, OK, ils n'auront pas de casier criminel, mais au moins ils auront quelque chose pour leur dire que ce n'est pas toléré en société.
Non. Ben en fait, c'est ça, là. C'est ça, je comprends que là, en société, il y a des choses qui sont moins tolérées. Moi, je pense que c'est moins la consommation qui est à réprimander que certains comportements. Puis ça va pour la consommation d'alcool aussi. Hein. Tu sais, je pense que je pense que la personne a le droit de consommer, peu importe la substance, mais qu'elle commence à engueuler le monde sur la rue, que ce soit sous l'effet de l'alcool, des amphétamines. Qu'elle soit agressive, qu'elle soit pas du bon, même qu'elle consomme pas. De toute façon, on veut que les gens se comportent en citoyens respectables. Je pense pas que ce soit le fait de consommer ou pas une substance. C'est les comportements, je pense, qu'il faut cibler, qu'il faut réprimer. Puis c'est les comportements, c'est pas la consommation, mais les comportements violents, agressifs, dénigrants. C'est ça. On est plus là. Moi, je pense que c'est plus là-dedans. Je pense qu'il faut continuer justement à réprimer, puis à mettre plus d'accent justement sur la violence, quelle qu'elle soit, peu importe qu'est-ce qui la motive, si c'est qui est présente sous le nom de substance.
Là. Et dites-moi donc, M. Vermette, là, vous avez l'appui des chefs de police, mais je sais que, bon, des organisations comme la vôtre, ça fait très, très longtemps qu'ils demandent la décriminalisation de ce type de drogue-là. Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui peut avancer plus facilement maintenant, qui est porté par des chefs de police partout au Canada?
Ben moi, je pense que oui. Je pense que c'est des partenaires très crédibles. Là. Je pense que c'est des gens qui, justement, c'est des gens qui travaillent fort. Hein. La police, là, c'est des gens, puis heureusement, là, puis je parle de possession simple, heureusement, là, déjà d'avance, là, ils ont quand même un certain, je sais pas, le qualificatif, mais ils ont du jugement, là, souvent, les policiers, puis ils sont tolérants. Là. Moi, j'ai certainement des exemples de personnes, tu sais, qui, même s'ils ont été pris en possession de petites quantités, ben, par exemple, quand la police connaît un individu, puis il sait que l'individu a réputation d'être un petit tannant, si on peut dire. Puis là, on voit que la personne est juste en train, ben là, ça, mettons, on se remet dans le temps où le cannabis était illégal. Puis il voit qu'il est en train juste de fumer son joint. Il laissait tranquille. Ou si on voit que la personne est en train de faire peu importe. Il y en a des cas de police qui sont déjà plus tolérants, puis tu sais, qui vont avec un peu justement avec du jugement, c'est qu'ils vont plus vers, qui sont plus orientés vers le comportement de la personne qui est plus qu'elle présente sous notre sens. Ça existe déjà. Puis justement, je pense que le dossier va aller beaucoup plus facilement de l'avant là, avec l'appui de surtout des autorités.
Oui, c'est ça. Bon, on va suivre ça de près, M. Vermette. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée. Simon Vermette est intervenant en toxicomanie pour la clinique SABSA. C'est lui-même un ex-toxicomane. Faut dire que, faut l'admettre, ça a vraiment démontré un beau taux de succès ailleurs dans le monde, ceux qui ont décidé d'adopter pour cette approche-là, cette démarche-là. Je pense que ça a donné le temps aussi aux enquêteurs de se concentrer sur des dossiers qui étaient un petit peu plus importants aussi.
Effectivement,
là.
Le Portugal est un des endroits où ça s'est produit et ils ont vraiment eu des bienfaits, des bénéfices plutôt à la décriminalisation. Puis, ne serait-ce l'argument économique, moi, je les vois passer là, au palais de justice, là, les dossiers, là. Puis il y en a beaucoup, 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 mais ça monopolise du temps, là. Ça monopolise du temps de la cour, donc juge, avocat, greffier, tout ça.
Vraiment, hein?
Pour des petites histoires, des fois, de un comprimé, deux comprimés. Tu sais, c'est
C'est des gens qui ont des problèmes aussi, c'est ça l'affaire. Moi, je pense que l'intention de commettre un crime, en tout cas, moi, je fais une différence vraiment entre quelqu'un qui a de grandes quantités pour la revendre et quelqu'un qui a une petite quantité, un comprimé, parce qu'il est accro, il est toxicomane, puis il a de la misère à s'en sortir. T'sais, à un moment donné, il faut faire attention aussi avec la réelle intention derrière tout ça. Puis je pense que ces gens-là ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'être judiciarisés puis d'être mis en prison, là. T'sais.
Non, mais c'est ça. Par contre, il pourrait y avoir un régime de sanctions, comme oui. je le mentionnais tout à oui. l'heure, qui pourrait être justement, ben, vous irez suivre un cours. Un peu comme les gens qui se font prendre en état d'ébriété au volant. Ils sont obligés de suivre un cours sur la consommation d'alcool, puis la sobriété et tout ça. Donc, je me demande pourquoi on ne fait pas la même chose et ça permettrait peut-être de diriger ces gens-là du bon côté ou du moins avec des ressources et qu'ils puissent arrêter leur addiction si addiction il y a.